journal de 18h. Mel Emmanuel.
Bienvenue à cette édition d'information. Bonsoir à tous. Les infrastructures sportives et hôtelières devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à Korogo sont opérationnelles, selon le Premier ministre, au sortir d'une visite effectuée sur les lieux ce vendredi. Les avancées démocratiques mentionnées par le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, remises en cause par le PPACI pour le parti d'opposition, les scrutins de 2023 ont été frauduleux. Et puis l'actualité sur le continent, ce sont les préparatifs des élections présidentielles prévues cette année dans bon nombre de pays ouest-africains. Sur le cas du Mali, vous aurez l'analyse du professeur Bamba Abdoulaye, professeur de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci de choisir Radio de la Paix. C'est à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, que nous ouvrons ce journal. Dans le cadre de la visite des installations sportives et d'hébergement de la CAN ce vendredi 5 janvier, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a exprimé sa satisfaction quant à l'avancée des travaux des différentes infrastructures devant accueillir l'événement. Un satisfait si qui n'exclut pas la vigilance, aspect sur lequel le chef de gouvernement ivoirien a insisté.
Après avoir visité les différentes installations à Korogo, ici, je puis affirmer qu'au niveau du stade de compétition qui porte l'illustre nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les installations sont prêtes. C'est pourquoi je tiens à féliciter toutes les autorités locales ici, le ministre-gouverneur, le préfet, les sous-préfets, les maires, les élus, les cadres, qui ont compris que la convergence des efforts était une grande richesse pour l'organisation que nous voulons offrir aux Africains. Nous avons ensuite visité les installations hôtelières. À 99%, nous sommes satisfaits. De 1%, c'est pour corriger les détails qui ont été identifiés et pour lesquels nous nous sommes préoccupés d'apporter les réponses dans les délais les plus brefs. Il reste entendu qu'il ne faut jamais se satisfaire de ce qui est fait, parce que comme souvent nous aimons le répéter, le diable se cache toujours dans les détails. Il faut être vigilant. Même si nous sommes prêts à 100%, tant que la compétition n'est pas terminée, nous ne sommes jamais prêts. Cela veut dire que tous les techniciens de l'ONS, du BNET, tous les superviseurs de la primature, le COCAN, les autorités locales, nous devons être vigilants pour que les détails trouvent solution, pour ne rien oublier, pour ne rien négliger.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé à l'instant au micro de Marcel Boni. Vie des partis politiques, le Parti des Peuples Africains de Côte d'Ivoire, PPACI, tenait ce 4 janvier sa 22e session d'échange avec la presse ivoirienne à son siège à Cocody-Riviera 3. Cette première tribune de l'année 2024 avait pour objectif de passer en revue l'adresse du nouvel an du président Alassane Ouattara à la nation ivoirienne. Le compte-rendu de Linda Ballier.
Dans son discours à la nation, le chef de l'État a souligné la maturité démocratique que connaît le pays, ce que refute le PPACI dont le président exécutif Dano Djedjé s'interroge.
De quelle démocratie il parle? À chaque élection, comme ce fut le cas de celle du 2 septembre 2023, le pays tout entier est pris d'angoisse parce que l'ombre de tous ordres du côté de la fraude plane sur le pays, depuis la publication de la liste électorale jusqu'à la déclaration définitive des résultats, le chef de l'État ne peut valablement parler de cohésion nationale, de consolidation de la paix et de la bonne marche dans notre démocratie dans une telle situation.
Le récent réajustement du prix de l'électricité n'a pas échappé à la loupe du parti de l'opposition pour qui cette décision dénote une mauvaise gouvernance économique et propose donc
de procéder à la réduction du temps de vie de l'État par la suppression des institutions inutilement budgétivores. De la réduction du stock de la dette globale à un niveau supportable pour les générations actuelles et futures. La consolidation du pouvoir d'achat des Ivoiriens par des dispositifs de subvention des produits de première nécessité.
À la question d'un confrère quant à l'avis du PPACI sur le scandale Onesis Nedaï, Danon Djedjé exhorte les Ivoiriens à faire front commun contre la problématique de la fraude sur la nationalité ivoirienne.
Malheureusement, dans notre pays, des scandales on les voit, mais personne n'en parle et on regarde faire. Il est joli temps que les Ivoiriens se mettre ensemble pour poser le problème de la fraude sur la nationalité ivoirienne.
Notons que le président exécutif Danon Djedjé était à sa première tribune en remplacement du vice-président et ex-porte-parole Koné Katina.
L'union de la gauche et plus globalement celle de l'opposition est-elle possible en Côte d'Ivoire? La question se pose depuis un certain temps, non seulement au sein des leaders des partis de gauche, mais également au sein de l'opinion publique de façon générale. Interrogé sur le sujet, Dr Eddy Guipier, analyste politique et enseignant-chercheur à l'université Péléforogon Koulibaly de Korogo, il estime que la réelle politique et les chiffres des dernières élections inclinent la gauche de s'unir si elle veut se donner des chances de revenir au pouvoir.
Se poser cette problématique-là, c'est de se demander quelles sont les chances réelles pour la gauche d'accéder au pouvoir en n'étant pas unie. Se pose aussi la question du renouvellement des idées de gauche qui sont mises à défaut dans beaucoup d'espaces.
Au nom du réalisme politique?
Au nom du réalisme des chiffres, la coalition au pouvoir qui est le RHDP, qui a, vous l'aurez compris, fait l'union autour d'elle. Alors comment affronter le RHDP qui a été auréolé par les dernières élections d'un quasi ras de marée? Comment titiller ce régime-là sans faire l'union? C'est la question qui se pose avec acuité, en tout cas aux forces de gauche.
Mais cette union est-elle possible? Est-elle réalisable?
Bien entendu, rien n'est impossible en politique. Et ces acteurs politiques sont bien entendu des acteurs rationnels qui sauront apprécier l'intérêt majeur de se mettre au-dessus de toute autre considération pour s'unir. Il serait quand même difficilement compréhensible qu'une opposition, elle-même divisée en deux grands blocs, et que la gauche, qui est du deuxième bloc, ne fasse pas l'unité et puisse espérer autre chose qu'une défaite aux élections.
Docteur Eddy Guipier en ligne avec Soro Adams. Un mot d'économie dans ce journal. Ouattara Siabou, directeur général des impôts, a porté à la connaissance des contribuables que l'annexe fiscale portant budget de l'État pour l'année 2024 entre en vigueur le samedi 6 janvier 2024. Le PCA de la Fédération Ivoirienne des PME se dit insatisfait de cette annexe qui ne comporte qu'une seule mesure concernant les PME, laissant de côté leurs autres demandes. On écoute Dr Ouattara Kanigi Yassante, contacté par Christelle Yesso.
Il n'y a eu qu'une seule mesure qui se décline en fait en deux conséquences qui ont été prises concernant les PME. Il s'agit de l'article 29 qui permet aujourd'hui aux dirigeants donc des PME, notamment ceux qui sont au niveau donc du régime des micro-entreprises, de pouvoir faire désormais, quel que soit leur chiffre d'affaires, le choix de rester soit au forfait pour leur imposition ou donc d'opter pour le régime du réel simplifié d'imposition. Et ça leur permet également aussi, bien sûr, donc, de pouvoir facturer la TVA. C'est une bonne nouvelle parce que ça faisait partie donc, des points que nous avons soulignés et avec lesquels nous avons discuté avec l'administration fiscale. Mais malheureusement, il faut dire que nous restons encore sur notre faim concernant donc, cette annexe fiscale parce qu'on avait d'autres mesures que nous avions demandées. Parce que justement, cette mesure qui a été prise pour nous entraînait obligatoirement une autre conséquence qui était donc la suppression d'un seuil minimum de perception patente plus BIC pour le régime réel simplifié d'imposition qui est donc de 8 millions de francs CFA et pour le RNI qui est le régime normal d'imposition qui est de 9 millions 6. Malheureusement, cette décision n'a pas été actée encore par l'annexe fiscale. Donc nous, en tout cas, en tant que PME, nous restons sur notre faim parce que c'est la principale demande que nous avions.
Nous écoutions le PCA de la Fédération des PME, Dr Ouattara Kanigi, qui réagissait sur l'année fiscale 2024. Prenons la direction du centre de la Côte d'Ivoire. Dans le Gbeke, la Chambre nationale de commerce et d'industrie, en partenariat avec la coopération allemande, a initié en 2022 dans 11 localités du pays un programme d'appui à la petite agro-transformation. Le bilan de cette opération a été dressé récemment à Boaké par le président de la structure initiatrice. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de 13 tricycles à des organisations. Écoutons Farma Touré dans des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant de région.
La phase 2 du programme d'appui à la promotion de la petite agro-industrie qui nous réunit ce jour est la résultante des résultats probants qui ont été obtenus lors de la première phase du dit programme déployé en 2022. Au plan des résultats de ce projet, le projet Papaye phase 2 a engendré des impacts positifs significatifs, à savoir l'augmentation de l'emploi par la croissance significative des effectifs salariés avec une augmentation de 51%. L'amélioration de la structuration des entreprises. 40% des entreprises ont désormais des employés déclarés à la CNPS, marquant un progrès en termes de conformité légale. Une hausse de la production des bénéficiaires. 60% des entreprises ont élargi leur gamme de produits grâce au programme. L'amélioration de la qualité des emplois créés avec 59% des 10 emplois occupés par des femmes. La hausse du chiffre d'affaires de la majorité des entreprises ainsi que l'élargissement de leur base clientèle. L'amélioration de la structuration des entreprises bénéficiaires qui leur permet un meilleur accès aux services publics et privés ainsi que leur conformité aux exigences légales. L'augmentation pour 85% des entreprises de leurs investissements reflétant un impact significatif sur la capacité d'investissement et la croissance financière.
À l'instant, Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et internautes en Côte d'Ivoire, désormais vous pouvez faire l'information en influant les journalistes de la presse écrite, audiovisuelle et numérique à vous servir ce qui est important pour vous. Pour cela, l'Autorité nationale de la presse, en abrégé ANP, vous demande de répondre à des questions de personnes qui viendront vers vous et aussi sur son site internet. L'opération dure tout le mois de janvier et est baptisée Enquête nationale sur les besoins des Ivoiriens en matière d'information. Là-dessus, écoutons son président, Samba Koné.
Déjà de savoir, chaque matin, quand un Ivoirien se réveille, quel est son support de préférence pour s'informer? Est-ce la presse écrite? Est-ce la radio? Est-ce la télé? Si c'est la télé, est-ce qu'un poste télévisuel ou est-ce son smartphone sur lequel il regarde la télé? Si c'est la presse écrite, est-ce que c'est un quotidien, une presse nationale, internationale? Et en plus, qu'est-ce qui l'intéresse en matière d'information? Est-ce la politique? Est-ce l'économie? Est-ce les faits de société? Ce sont de telles données que nous voulons savoir, connaître, retrouver auprès de ceux qui sont intéressés, à savoir les citoyens, qui nous expriment leurs besoins. Je veux être bien précis en matière d'information, pas de distraction.
Quand vous dites en matière d'information, vous insistez, ça veut dire quoi?
L'actualité quotidienne. Est-ce que c'est les faits de société dans leur quartier qui les intéressent ou alors ce sont les faits internationaux, la politique internationale, la politique nationale, l'économie, l'économie nationale, l'économie internationale? Nous travaillons pour des lecteurs, nous travaillons pour des auditeurs, des téléspectateurs. Et l'information est un produit. Et ce produit a besoin d'une cible. Quels sont les besoins des cibles? Voilà la question à laquelle l'ANP souhaite répondre pour que les entreprises de presse puissent répondre justement aux attentes des citoyens. Nous avons utilisé deux axes d'enquête. On a une enquête sur le terrain qui est menée par un cabinet d'études, toute la Côte d'Ivoire. Et puis nous avons entrepris une enquête en ligne qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier prochain avec le même questionnaire sur le site de l'ANP, anp.ci. Et vous avez un onglet qui va vous dire comment s'informent les Ivoiriens. Vous cliquez sur l'onglet et tout de suite vous avez le questionnaire. Et ça prend au maximum 2 à 3 minutes pour remplir le questionnaire.
Samba Koné, président de l'ANP, joint par Francis Cassi. Plus de 300 militaires et gendarmes admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu leur chèque lors d'une cérémonie en présence de la haute hiérarchie des deux corporations ce vendredi 5 janvier 2024. Des chèques allant d'un à 11 millions de francs CFA pour un montant global de plus d'un milliard de francs CFA. Mata Touré.
Le fonds de prévoyance de retraite militaire qui est octroyé aux retraités, militaires ou gendarmes qui y ont souscrit en attendant le reversement de leur pension de retraite au moment de leur départ. Ces assurances sont constituées de l'entraide en fin de carrière et de plans d'épargne retraite mutualiste. Et pour cela, il faut avoir cotisé pendant sa période d'adhésion et être retraité à la limite d'âge de grade. Le colonel-major Oka Olivier nous donne ici quelques précisions.
Aider les retraités à transformer leur temps libre en temps précieux. C'est donc dans cette optique de voir ses vœux réalisés que le FPM demeure attaché à cette cérémonie d'hommage aux retraités, militaires et gendarmes, qui, comme à l'accoutumée, se tient le premier vendredi de chaque année suivant le départ à la retraite de nos adhérents. Aujourd'hui, vendredi 5 janvier 2024, premier vendredi de l'année 2024, le Fonds de prévoyance militaire se réjouit de vous compter à la célébration de ces retraités de l'année 2023.
Le général Sako Issa représentait ici le ministère de la Défense.
Je voudrais aussi exprimer vraiment des félicitations à l'endroit de tous les personnels retraités, leur exprimer la satisfaction du commandement pour les bons et loyaux services exécutés depuis des décennies au sein de notre institution qu'est l'armée.
Au-delà de surmonter l'anxiété et la précarité suscitée par la fin de carrière, c'est surtout une véritable opportunité pour le paiement des cotisations de la couverture médicale de la première année de retraite.
L'actualité sur le continent, ce sont plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest qui se préparent en cette année 2024 à organiser des élections présidentielles. Parmi ceux-ci, l'on peut citer le Mali et le Sénégal, deux pays de la CEDEAO. Si pour l'un, des observateurs des relations internationales semblent être confiants quant au bon déroulement des dites élections, cela ne serait toutefois pas évident pour le deuxième pays qu'est le Mali, dirigé par un régime militaire, arrivé au pouvoir par un coup d'État. On écoute à cet effet l'analyse du professeur Bamba Abdoulaye. Il est professeur de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Il faut peut-être, dans un premier temps, essayer de séparer les différents cas. Si on peut prendre le cas du Sénégal comme un exemple de démocratie avec le président Macky Sall qui a annoncé officiellement sa non-candidature, là, les enjeux sont beaucoup plus ouverts et cela augure, si tout se passe dans les meilleures conditions, du processus démocratique au Sénégal. Pour ce qui est du Mali, il faut d'abord prier pour que la bonne volonté des autorités maliennes soit manifeste sur le terrain. Généralement, je disais, après les deux coups d'État au Mali, qu'une chose est de venir au pouvoir, une chose est d'organiser des élections et de laisser le pouvoir repartir. Or, ce qu'on constate dans le cas du Mali, la junte au pouvoir est dans une dynamique de se maintenir au pouvoir. Est-ce que le jeu démocratique va être ouvert, va être inclusif? C'est un peu ça aujourd'hui la question qu'on se pose pour ce qui est du Mali. En tout état de cause, la junte au pouvoir a tout intérêt à organiser des élections démocratiques ouvertes afin de mettre fin définitivement à son isolement sur le plan sud-régional et sur le plan international, si je peux m'exprimer ainsi.
Des propos du professeur Bamba Abdoulaye recueillis par Gapienan Ouattara. Nous voici arrivés au rappel des titres de ce journal. Les infrastructures sportives et hôtelières devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations à Korogo sont opérationnelles, selon le Premier ministre, au sortir d'une visite effectuée sur les lieux ce vendredi. Et puis l'actualité sur le continent, ce sont les préparatifs des élections présidentielles prévues cette année dans bon nombre de pays ouest-africains. Sur le cas du Mali, vous avez eu l'analyse du professeur Bamba Abdoulaye, professeur de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est ici que se referme ce journal. Les programmes de Radio de la Paix continuent avec Humanitaire, présenté par Sonia Nzian.
Humanitaire, pour une bonne visibilité des actions d'aide et de protection des populations en Côte d'Ivoire sur Radio de la Paix. Présentation Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous. Au menu de ce rendez-vous humanitaire, Save the Blind, ou si vous préférez en français, Sauvons les aveugles, sera au centre de action. Créée en 2021, cette ONG promeut et défend en Côte d'Ivoire les droits des personnes souffrant de handicap visuel. Nous resterons dans l'univers des personnes handicapées pour le portrait d'Humanitaire et ce sera avec le directeur exécutif de l'ONG Espoir Handicap, Thierry Deroulaurent, se basant sur les difficultés d'un proche handicapé, a décidé depuis 2007 de se mettre au service des personnes vivant avec un handicap. Et puis, Actu mettra l'accent sur une campagne de dépistage et de chirurgie gratuite de la cataracte à Daloa. Dans quelques instants, les échos avec Jean-Noël Kwame.
Action humanitaire.
Pour Action, nous sommes en compagnie de Ngozan Nguan-Frédéric. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes de l'ONG Save the Blind.
C'est ça.
Qui signifie « Sauvons les aveugles ». D'accord. Déjà, pourquoi cette appellation ?
Ben, comme vous le sentez, c'est de l'anglais. Et nous, en choisissant ce vocable-là, c'est dans le but de pouvoir s'internationaliser pour permettre à tous de nous comprendre et de nous connaître. C'est ce qui nous a permis de prendre ce vocable anglais.
Pourquoi déjà l'idée de mettre sur pied l'ONG Save the Blind?
On a des associations, mais nous avons pensé qu'il faut gérer des thématiques qui peuvent permettre de profiter à tous. Telle qu'aujourd'hui, la question entrepreneuriale. Nous avons des non-voyants qui ont des talents. Comment faire pour que ces talents puissent éclore? Il y a aussi la question du leadership. Comment permettre à tous ces non-voyants